talmudique. L'époque est incertaine, écrit Nicole Lapierre dans son livre « Sauf qui peut la vie ». Les inquiétudes gagnent avec leur cortège d'intolérance, d'injustice et de préjugés. Tel est le monde peu enthousiasmant dans lequel grandissent mes enfants et mes petits-enfants. La génération de mes parents a vécu bien pire, c'est évident. Il ne sert à rien de se lamenter ni de jouer à se faire peur, non plus que d'écraser les jeunes sous le poids des morts du passé. Au mausolée, je préfère les fidélités vivantes. Mieux vaut apprendre du souvenir pour rebondir, résister et créer de nouvelles solidarités. Cela devient urgent. Il faut répondre du tic au tac, disait parfois Élie. Il ne faisait généralement pas d'erreur, même sur les expressions idiomatiques, hormis celle-ci. Ce petit décalage qui nous faisait bien rire, ma mère et moi, ma sœur et moi, nous qui étions si parfaitement françaises, m'émeut aujourd'hui comme la trace discrète d'un déplacement salvateur. La locution originelle viendrait du monde de l'escrime, où depuis 1873, riposter du tac au tac signifie répondre immédiatement à l'assaut de l'adversaire, le tac évoquant le bruit des fers qui s'entrechoquent. Moins martial, sa version évoquait plutôt le bruit familier du réveil. L'urgence de l'heure n'est pas celle des horloges. C'est celle d'un passé plein d'à présent qui invite à la relève des générations. Mémoire partagée et main tendue d'un même mouvement, nous pouvons refuser le plomb et l'ombre. Frédéric Worms, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wacknin.
Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Nous avons abordé la semaine dernière la question de la critique, de la journée de la discussion critique avec les élèves du lycée Camille Claudel. Je viens de lire un texte sur l'urgence du temps. Et cependant, dans le temps de l'urgence, on serait tenté, et les jeunes souvent, de profiter de la vie, de vouloir profiter de la vie, de carpe diem, comme disent les anciens, cueillir le jour. Une expression qui nous vient d'Horace, dont la formulation complète est « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Mais peut-on vivre sans se soucier du lendemain, sans se soucier du passé ? Rabbi Nachman de Bratslav disait « En zikaron le'alma de'ate, il n'y a de souvenir que du monde qui vient ». Ce que j'ai traduit par une formule qui sonne avec la force de son paradoxe « Souviens-toi de ton futur ». Être, c'est à la fois se souvenir et être responsable des jours qui viennent. Des réflexions, Frédéric Worms, qui invitent à penser le temps, la conscience et la vie. Bergson, dont vous êtes l'un des plus grands spécialistes contemporains, n'est pas loin. Et « Revivre », votre livre paru en 2012 et réédité en 2015, est au centre de ces préoccupations. Que diriez-vous à ces élèves et à ces jeunes, et à tout le monde en fait, avides de présent ? Comment le définiriez-vous ce présent, ses rapports avec la conscience ?
Alors, Frédéric Worms. Oui, merci de ces belles questions. Je voudrais d'abord rendre hommage au très beau texte de Nicole Lapierre que vous avez lu. J'avais été très sensible à son livre et à la façon qu'elle avait d'en parler dans une émission sur votre antenne de France Culture, et vraiment ça me frappe beaucoup. Et c'est de cela, de ce que vous avez lu, que je voudrais repartir. Quand elle dit l'urgence de l'heure n'est pas celle des horloges. En réalité, sur ce point, je serais pas entièrement d'accord avec elle, et je pense Bergson non plus. Car le temps des horloges, qui n'est pas le temps le plus profond, certes, et là elle a raison, et vous aussi, c'est-à-dire il y a un temps plus profond, il y a le temps de la mémoire, il y a le temps de la création, il y a le temps de l'expérience vivante dans le temps, du bonheur dans le temps, mais néanmoins le temps des horloges n'est pas juste un temps qui nous est imposé de façon gratuite ou arbitraire, ou comme dit Bergson, nous ne spatialisons pas le temps simplement pour le plaisir. S'il y a un temps des horloges, c'est justement parce qu'il y a des urgences. Et le propre de l'urgence vitale, moi j'ai beaucoup travaillé avec des médecins et sur la médecine, le propre de l'urgence vitale, c'est justement qu'il y a un tic-tac et qu'il faut agir maintenant, il faut faire le massage cardiaque tout de suite. Dans 2 secondes, ce sera trop tard. Et en fait, le temps nous est rappelé, le temps nous vivons dans le temps sans le savoir, quand tout va bien. Et quand il y a une urgence, alors nous avons une expérience du temps que moi je décris comme une double peine. C'est-à-dire que non seulement nous prenons conscience du malheur, mais nous prenons conscience de l'urgence du malheur ou du temps comme pression supplémentaire. Et il y a deux extrêmes d'ailleurs. Il y a le tic-tac de l'horloge et puis il y a le verdict mortel, par exemple, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie incurable, tout de suite, là, il prend conscience du temps parce que l'échéance est là et ça borde. Donc il faut distinguer non pas tant le passé, l'avenir, etc., mais plutôt le temps dont nous n'avons pas conscience et où nous sommes sans le savoir et qui est la condition du bonheur. Et quand nous prenons conscience du temps, c'est souvent sous la pression de l'urgence vitale, du risque, voire de la mort. Et beaucoup de philosophes ont lié d'ailleurs l'expérience consciente du temps et celle de la mort. Et c'est pour ça que je dirais que l'urgence de l'heure, c'est quand même toujours celle des horloges, en fait. Même si la vraie question, c'est de résister à cette urgence. Et donc à ces horloges, par l'accès ou le retour ou la retrouvaille avec un temps plus profond, qui est la réponse au temps des horloges. Mais il faut bien voir que le temps des horloges, il ne faut pas le négliger non plus si vous êtes médecin, politique et tout simplement responsable du vivant. Ben il faut aussi tenir compte des horloges.
Et est-ce que ce temps qui n'est pas celui des horloges serait celui que Bergson appelle la durée ?
Exactement. Alors vous voyez, Bergson distingue deux temps, deux rapports au temps. Le rapport spatial au temps, qui est notre rapport naturel, entre guillemets. Naturel, ça veut dire biologique. C'est celui dont nous avons besoin pour vivre, dit-il. Et l'espace, l'horloge, le calcul, la science dans son ensemble, la technique, est dans ce temps spatialisé, qui, encore une fois, n'est pas le temps le plus profond, mais qui est quand même nécessaire, qui n'est pas non plus une construction gratuite. Et dont on pourrait se débarrasser comme ça, d'un revers de la main. Mais sous ce temps spatialisé, on oublie trop souvent, en raison de son urgence même, qu'il y a un autre temps plus profond, qui ne se mesure pas, qui est une transformation continuelle, et surtout qui ne peut pas se mesurer pour une raison très simple, c'est ce qui définit la durée d'ailleurs, c'est que les deux moments du temps dont on parle, en fait, ne sont jamais là en même temps. Pour mesurer, je dois déjà me représenter l'avenir. Or, me le représenter, c'est de le mettre en même temps que le présent, dans un même espace, sur un même papier, dans un même écran, sur un même tableau. Or, ils ne seront jamais ensemble. L'avenir, le présent et le passé ne seront jamais ensemble. Ne serait-ce que pour cette raison, on ne peut pas confondre le vrai temps, la vraie durée avec le temps spatialisé. Mais il y a d'autres raisons encore qui sont liées à fait qu'ils ne sont jamais ensemble dans un espace, mais nous les reprenons ensemble dans notre vie, dans nos créations, dans nos souvenirs.
Mais est-ce que la conscience, justement, n'est pas, comme le dit Bergson, le fait de s'appuyer sur le passé pour se projeter vers le futur, d'être ce pont?
Oui,
et le présent serait justement cette mémoire donc que j'ai évoquée et en même temps cette projection, c'est-à-dire une responsabilité de la construction.
Oui, mais vous voyez, pas dans la représentation. Il y a une autre manière de synthétiser le temps que la représentation du temps. Par exemple, là, je suis en train de tenir ensemble les bouts d'une phrase, plusieurs mots. Et je le fais sans me représenter le fait que le premier mot de ma phrase, le dernier mot de ma phrase... Au contraire, ça, c'est si j'ai du mal à parler. Quand une langue que je ne connais pas, je vais devoir dire en allemand, que je ne maîtrise pas très bien, « Ich gehe nach Paris », ça va être très compliqué pour moi. Mais dans une langue que je comprends bien, mes phrases s'unifient dans un temps que je ne me représente pas consciemment. Et vous-même, pour m'écouter, votre esprit comprend toute ma phrase sans avoir besoin de la découper en mots. Et donc, c'est cette synthèse immédiate du temps, c'est cet acte d'unifier les moments du temps sans se les représenter, qui définit vraiment la durée. Nous sommes des êtres conscients, avec des mémoires, qui sont des pouvoirs de contraction du temps, dit Bergson. Pas de représentation, mais de contraction. Notre vie elle-même est un acte de contraction. Par exemple, dans le cerveau, il y a, selon Bergson, deux mémoires. Et les biologistes d'aujourd'hui disent la même chose, simplement, sans en faire comme Bergson le faisait, un principe métaphysique de dualité. Mais donc, on peut le reprendre. Il y a une mémoire séquentielle, je me souviens de A, B, C, et puis il y a la mémoire individuelle. Ce que je dis souvent pour résumer Bergson, non pas la mémoire de quelque chose, mais la mémoire de quelqu'un. Et cette synthèse vivante qui définit un sujet de manière toujours différente, votre vie, ça n'est pas la mienne, vous avez synthétisé d'autres événements que moi dans une personnalité indivisible, c'est ça la durée bergsonienne, eh bien c'est justement une manière de synthétiser le temps qui n'est pas de la représentation. Si vous mettez ça dans la représentation, on a tous eu des enfances, des événements marquants, des amours, des deuils, etc. Tout devient banal. Mais la manière dont votre naissance, votre famille, vos amis, vos amours, vos études, vos expériences négatives ont fait votre personnalité.
Cette singularité, c'est la durée.
C'est la durée.
Et le présent dans tout ça?
Le présent, lui aussi, est double. Il y a un présent de l'horloge qui n'est pas négligeable, c'est l'instant, c'est le tic-tac.
Expliqué, oui.
Et puis il y a ce présent que nous partageons en ce moment, par exemple, qui est épais, dit Bergson.
Alors c'est intéressant parce que ça me fait penser à deux choses importantes. La première, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de présent du verbe être à l'indicatif.
Ah bon ?
C'est-à-dire que je peux dire j'étais, je peux dire je serai, mais je ne peux pas dire je suis.
Ah bon ?
Et ça a posé des problèmes aux philosophes qui ont voulu traduire Descartes, parce qu'on ne peut pas traduire je pense donc je suis. En hébreu, on peut traduire je pense donc je.
Ah.
Et cette absence de
on peut dire je pense au présent.
On peut dire je pense. Non, c'est le verbe être.
Ah, c'est seulement le verbe être.
Voilà.
Il n'y a pas de présent. D'accord.
Voilà. Et il me semble que cette impossibilité du présent est peut-être cette porte inaugurale, enfin, vers la durée.
Bah, il nous évite un leurre, hein. C'est-à-dire que effectivement, on a des activités au présent. Je pense, je vis, je parle. Mais l'illusion, ce serait de croire que l'être se fige dans des instants. Et donc, cette impossibilité de dire « je suis » ne veut pas dire que nous ne sommes pas.
Mais nous sommes ouverts peut-être à cette durée dont vous parlez.
Nous ne sommes pas figés dans une existence instantanée. Et d'ailleurs, même Descartes a eu le problème, c'est que cette évidence du « je suis », après, il faut reconstituer une durée avec elle. Puisque le risque, c'est que dans une des formulations du « je pense », c'est-à-dire « je pense, je suis », autant de fois que je le dis. Et donc, il faut à ce moment-là répéter sans fin. Et ça a été un des grands problèmes. C'est pour ça que c'est ce que Bergson reprochait à Descartes. Mais un des grands disciples de Bergson, il y a eu Jean Kelevitch, par exemple, mais entre Bergson et Jean Kelevitch, il y a eu Jean Val. Et Jean Val a fait une thèse magnifique qui intitule « Du rôle de l'instant dans la philosophie de Descartes », dédiée à Bergson. Et il a essayé de concilier l'instant et la durée.
Alors, ça nous ouvre vers des perspectives de lecture absolument enthousiasmantes. Et je pensais à un texte de Kafka, un aphorisme de Kafka, qui est cité par Hannah Arendt dans son texte qui s'appelle « La vie de l'esprit ». L'aphorisme commence de la manière suivante. Il a deux adversaires, et il, c'est le nom du personnage, il a deux adversaires. Le premier le serre sur l'arrière, à partir de son origine. Le second lui barre la route par devant. Il se bat avec les deux. À vrai dire, le premier lui prête son appui dans sa lutte avec le second, car il veut le pousser vers l'avant. Et de la même façon, le second lui prête son appui vers sa lutte avec le premier, puisqu'il le repousse en arrière. C'est le combat entre le jamais plus et le ne pas encore, entre le passé et le futur. Et Hannah Arendt commente ce texte. Et elle termine par cette analyse. Autrement dit, la ligne continue du temps, le changement sans fin, se décompose en temps grammaticaux, passé, présent et futur, de telle façon que le passé et le futur s'affrontent, ne plus contre pas encore, de par la seule présence de l'homme qui lui-même possède une origine, sa naissance et une fin, sa mort, et par conséquent, se trouve à tout moment quelque part entre les deux. Cet intervalle s'appelle le présent. Alors, comme je pense toujours quand je dis cela, quand on a l'impression de dire quelque chose d'absolument banal. Le présent, c'est pas l'instant maintenant, mais le présent de chacun d'entre nous, c'est ce qui serait peut-être la durée dont vous avez parlé, c'est entre ma naissance et ma mort. Et quand j'ai lu ce texte, au début, ça m'a semblé quelconque. Et puis tout à coup, j'ai trouvé ça éminemment bouleversant, dans la mesure où, en lisant ce texte en français, le mot présent a deux sens. Il y a une amphibologie, il y a deux sens de ce mot. C'est à la fois le temps, le présent, le maintenant, mais c'est en même temps le cadeau. Un présent, c'est un cadeau. Mmh. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un présent? C'est quoi le présent de chacun d'entre nous? C'est la capacité d'offrir un cadeau au monde. Notre vie présente, notre présente, c'est notre présence. Ça sera toujours répondre à la question, mais quel cadeau nous avons fait au monde? Frédéric Worms.
Oui, moi j'aurais tendance à dramatiser un peu l'enjeu dans le sens de Kafka aussi, même plus que d'Anna Arendt. C'est-à-dire de voir le présent, en effet, comme le lieu d'un champ de force, plutôt d'un conflit, entre une force qui nous tire vers un sens qui n'est pas seulement le passé, mais qui a quelque chose à voir avec, comme dans le temps de l'urgence dont on parlait, avec la mort, avec la perte, avec la finitude. Et une autre force qui nous tire vers l'avenir, c'est-à-dire vers la création. Et le temps n'est en effet pas un déroulement neutre, mais un combat entre ces deux forces, une force qui nous tire véritablement en sens inverse. Et j'aurais tendance à dire, un peu comme Bergson, entre l'espace et le temps, mais aussi comme Freud, entre la vie et la mort, en sachant qu'il y a en nous une force qui va vers la mort aussi. Et il y a un très grand disciple de Bergson, j'ai cité Jean Val et Jean Kelevitch, il y en a un troisième dans la même période, il y en a d'autres, hein, mais il y a Peggy, il y a quelques autres. Peggy disait d'ailleurs des choses très proches. Mais Eugène Minkowski, dans un grand livre intitulé « Le temps vécu », explique que nous sommes toujours dans ces deux forces. Et il y a une image très belle, je trouve. C'est qu'il dit « Dès que nous sommes nés, nous allons vers l'avenir et nous allons vers la mort. » Et le petit enfant va déjà vers la mort et le vieillard va encore vers l'avenir. Et il n'y a jamais un seul de ces deux sens. Les deux sens sont présents tout le temps pour tout le monde. Même à l'approche de l'instant fatal, il y a encore la place pour un avenir, une projection, une transmission. Et au fond, malheureusement, à peine on est né, on est déjà mortel. Donc le risque, c'est de faire du temps, en effet, un espace neutre où tout se vaut, alors qu'en fait, dans la polarité interne du temps, de la vie, il y a une orientation, j'allais dire, morale aussi. Il y a quelque chose qui nous menace et quelque chose qui nous attire. Il y a des combats tout le temps. Donc je serais plus dans la dramatisation que dans, disons, ce présent comme don, qui, est, à mon avis, peut être un leurre. Parce qu'en fait, le don, il faut le regagner tout le temps, le réoffrir, le reprendre sur ce qui peut nous l'enlever, en réalité. Et donc, il y a une menace de la perte aussi dans le présent autant que du don. Et ça, c'est très important. Et peut-être le dernier point que j'ajouterais pour aller un tout petit peu plus loin, là aussi qu'Hannah Arendt, c'est-à-dire qu'Hannah Arendt hérite de Heidegger quelque chose que moi je refuse, pour être très net, c'est le privilège de l'homme par rapport au temps. Et elle le dit dans le texte que vous avez lu, c'est l'être humain qui a sa naissance et sa mort. Et en fait, il y a une spécificité de l'être humain, hein, c'était évident, mais je pense que c'est cette question de la dualité du temps apparaît dès qu'il y a du vivant. Là, Freud et Bergson ont raison, le vivant est toujours lui aussi tiré vers la mort et tiré vers la création. Et au fond, il ne faut pas couper ici l'homme du vivant. Ça peut être dangereux, parce que vous savez qu'Heidegger disait « seul l'homme meurt, les autres ne meurent pas ». Et la question, il disait même pas l'homme, hein, puisque
l'être, ouais.
Voilà l'être qui a permis d'exclure certains hommes de cet être. Et Hannah Arendt le reprenait en disant seul l'être humain est capable de naissance. En un sens, on voit bien ce qu'elle veut dire, mais ce privilège de l'homme, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut plutôt le penser comme un surgissement depuis le vivant. Il y a des dimensions de la vie humaine spécifiques, mais ce qui définit la vie, c'est quand même toujours le refus de la mort, et c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, j'allais dire, aussi un peu comme les autres.
Il y avait autrefois, bien avant le Christ, une espèce d'oiseau stupide appelé le phénix. Tous les 100 ans, il dressait un bûcher et s'y immolait. Ce devait être le premier cousin de l'homme. Mais chaque fois qu'il se brûlait, il ressurgissait de ses cendres, renaissait à la vie. Et on dirait que nous sommes en train d'en faire autant. Sans arrêt, mais avec un méchant avantage sur le phénix. Nous avons conscience de l'énorme bêtise que nous venons de faire. Conscience de toutes les bêtises que nous avons faites durant un millier d'années. Et tant que nous en aurons conscience et qu'il y aura autour de nous de quoi nous les rappeler, nous cesserons un jour de dresser ces maudits bûchers funéraires pour nous jeter dedans. À chaque génération, nous trouvons un peu plus de monde qui se souvient. Et maintenant, en route. Et gardez toujours cette idée en tête. Vous n'avez aucune importance. Vous n'êtes rien du tout. Un jour, il se peut que ce que nous transportons rende service à quelqu'un. Mais même quand nous avions accès aux livres, nous n'avons pas su en profiter. Nous avons continué à insulter les morts. Nous avons continué à cracher sur les tombes de tous les malheureux morts avant nous. Nous allons rencontrer des tas de gens isolés dans la semaine, le mois, l'année à venir. Et quand ils demanderont ce que nous faisons, Vous pourrez répondre, nous nous souvenons. C'est comme ça que nous finirons par gagner la partie. Et un jour, nous nous souviendrons si bien que nous construirons la plus grande pelle mécanique de l'histoire et que nous y enterrerons la guerre. Allez, pour commencer, nous allons construire une miroiterie et ne produire que des miroirs pendant un an pour nous regarder longuement dedans. Frédéric Worms, nous sommes en train d'entendre les Pink Floyd et j'ai lu un texte, la fin de Fahrenheit 451, où le personnage raconte qu'il sent en lui, il cherche une citation, il sent en lui la lente fermentation des mots et leur lent frémissement jusqu'au moment où il retrouve la citation. Alors le disque avec Pink Floyd, il est surprenant parce que je l'ai dans la main ce matin. Et la couverture, c'est une vache. Mm-hmm. C'est une vache en grand format. J'ai lu dans votre livre qui s'appelle « Revivre ». Éprouver nos blessures et nos ressources, un chapitre qui s'appelle « Penser, c'est ruminer ». Alors, j'étais très content parce que lors d'une conférence avec le rabbin Yann Boissière et l'aumônier musulman des armées Mohamed Ali Bouarbe, dans ce même lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville, j'ai expliqué que le cachère, un animal est cachère lorsqu'il a les sabots fendus et lorsqu'il rumine. Sabots fendus pour dire que nous avons toujours deux possibilités. La vie, c'est une alternative, toujours un choix. Et la rumination, parce que, et j'ai cité Nietzsche, et le proviseur me dit, mais c'est la première fois qu'on cite Nietzsche dans cet endroit, c'était au réfectoire, et il me dit, et je lui dis, parce que j'ai expliqué aux élèves, ruminer, c'est une pensée qui doit toujours être prise, repensée, réapprofondie, réinterrogée, reproblématisée, et en voyant votre texte, je me suis dit, quelle convergence de pensée.
Oui, c'est vrai. Alors sur les aspects religieux, j'avoue pas avoir beaucoup de lumière, mais sur le revivre et la rumination, je réintroduirais aussi la distinction, la dramatisation dont on parlait tout à l'heure, et en disant un mot du texte de Ray Bradbury de Fahrenheit 451 qui était très frappant. Je pense qu'il y a deux sens du mot revivre et donc il y a aussi deux sens du mot ruminer. Il y a un sens qui nous enferme dans la répétition. Ruminer, en ce sens, c'est ressasser. Et ça peut être terrifiant. C'est le retour sans aucun changement d'un passé, d'un trauma, etc. Alors que le sens que donne Nietzsche, penser, c'est ruminer, c'est un sens créateur. C'est un sens de la répétition, du revivre dans la pensée qui nous entraîne vers l'avenir et nous libère de ce passé, justement. Et donc, il faut bien voir qu'il y a ce double sens, et l'un qui est un risque et l'autre qui est une chance. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans le texte de Bradbury, c'est que, au fond, Il y a cette dualité, je dirais, dans l'expérience du vivant en général, cette dualité, on pourrait dire, de la vache et du phénix, hein, les deux animaux, c'est-à-dire l'une dont l'image est quand même la rumination, même si vous venez de lui donner un sens moral très beau, mais en même temps, l'image qu'on en a, c'est quand même plutôt la répétition inconsciente, et le phénix qui renaît de ses cendres et qui plutôt nous permet de dépasser la mort. Et cette image de la vache et du phénix, au fond, elle passe dans la vie humaine d'une manière différente, c'est-à-dire la répétition historique, inconsciente d'elle-même, quand on brûle les livres. C'est quand même le message de Fahrenheit 451. Et puis la répétition, le souvenir historique conscient qui nous permet de nous libérer du passé. Dans le livre, je commente une phrase qui est extrêmement connue, qui est l'idée qu'il faut connaître, une phrase que Winston Churchill notamment a rendue célèbre, mais qui vient de plus loin, qui est une phrase qui dit, que tout le monde a rencontré une fois dans sa vie, qui dit « les peuples doivent connaître leur histoire, sinon ils sont condamnés à la revivre ». Et c'est précisément ce souci qu'il faut avoir. C'est très beau dans Ray Bradbury, un texte que je ne connaissais pas du tout, où il dit, voilà, nous serons... À chaque génération, dit-il, j'ai pris une note, hein, nous trouvons plus de monde qui se souvient. Et au fond, c'est un souvenir qui devient non pas une puissance de répétition mortifère du trauma, mais plutôt une puissance de délivrance et de renouvellement, mais à travers quand même le souvenir. Donc il y a deux usages du souvenir. je voudrais pas être trop binaire, mais quand même, il me semble que c'est le cas, deux usages de la répétition.
C'est pas binaire, c'est vraiment la tension, qu'on a vue dans Kafka, c'est-à-dire la force qui tire vers l'arrière, l'autre force qui tire vers l'avant.
Exactement.
Et l'homme est peut-être justement ce qu'on appellerait la conscience ou le présent, qu'on aborde aujourd'hui. C'est être capable.
C'est le point de rencontre.
Le point de rencontre, et puis d'accepter cette tension de, comme dit très bien Kafka, dans le livre s'appelle Description d'un combat. Voilà. Donc il y a cette dimension, je dirais, de combat qu'il faut retenir. Et alors, je dirais, ce renouvellement, ce vivre, ce revivre qui a toujours aussi deux sens, n'est-ce pas aussi, et puis cette renaissance, cette volonté ou ce désir de nous faire sentir, Frédéric Worms, quand vous en parlez maintenant, déjà en plein mois de janvier, les premiers soubresauts du printemps, ce merveilleux printemps, comme le dit Vladimir Yankelevitch que vous citez, et ce printemps qui raconte l'histoire de notre résurrection, que vous commentez si admirablement, en nous répétant et en nous permettant de ruminer, oui, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, il y a même toujours quelque chose de nouveau sous le soleil, et on trouve cette intuition chez Rabbi Nachman de Breslav et chez Gaston Bachelard, ce qui persiste, c'est toujours ce qui se régénère. Rabbi Nachman disait, Assur liot zaken, il est interdit d'être vieux, Frédéric Worms.
Il y a un printemps chaque année, comme dit Jankelevitch, mais comment, ne savez-vous pas qu'il y a un printemps? Sa femme s'étonnait, il dit, tiens, viens voir, il y a des bourgeons sur l'arbre. Ils habitaient, vous savez, au bout de l'île de la cité, derrière Notre-Dame.
Quai des Fleurs. Dans la même maison qu'est de Montfleg.
Quai aux Fleurs, voilà, c'est exactement. Après, s'est installé sous leur fenêtre le mémorial de la Shoah. Enfin, pas le mémorial de la Shoah, mais un monument aux déportés. Et au fond, on n'a pas à s'étonner que le printemps revienne. C'est une répétition purement mécanique, mais en même temps, c'est un renouvellement à chaque fois, et c'est à chaque fois quelque chose d'absolument nouveau. Et il faut là aussi tenir ces deux bouts, et c'est extrêmement important ce que vous disiez aussi, hein, cette idée que la régénération est quelque chose de qui n'est pas simplement un cycle biologique qui se répète, mais une condition de la création.
Dans ce livre, Revivre, vous parlez aussi de la résilience. Nous sommes dans un moment nous avons évoqué la semaine dernière et avec les élèves, cette question de la douleur. Ils disent, nous sommes désemparés, nous sommes impuissants, on sent une souffrance. Comment de ce revivre invite et permet de penser la résilience?
Alors, il y a certainement une capacité de résilience, c'est un terme qui désigne une capacité d'abord physique chez certains matériaux, et il y a dans l'être humain certainement une capacité de rebondir, de se recréer, comme tout être vivant après une blessure. Mais il faut comprendre, à mon avis, justement, que chez l'être humain, cette résilience doit passer par un travail justement critique, pour rejoindre aussi un autre thème qu'on a développé la semaine dernière, un travail critique sur le négatif qui a eu lieu. Elle ne se fera pas toute seule, elle ne se fait pas magiquement. Les psychologues ont raison, les psychanalystes aussi, il faut absolument la soutenir, l'entretenir. D'abord, elle a des conditions relationnelles, cette résilience, elle n'est pas un pouvoir magique dans l'individu tout seul. Mais en plus, elle suppose ce travail critique, car sinon, elle rencontre cet adversaire qui n'est pas seulement le présent, justement, qui est le retour du passé, hein, et qui donc vient la menacer. Donc, chez l'homme, elle passe par cette spontanéité de renouvellement soutenue par des relations humaines, parfois thérapeutiques, hein, et parfois simplement humaines, amicales, amoureuses, etc. Et aussi par un travail critique sur le passé, par un travail de réflexion sur soi-même, par un travail de lutte contre le négatif. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de comprendre que revivre n'est jamais seulement une promesse abstraite. Je crois même que, pour revenir de ce qu'on disait sur Bergson, le risque avec la promesse, c'est que le temps redevient un espace, au fond, un avenir qu'on se représente, et non pas quelque chose qu'on commence dès maintenant. Donc le véritable revivre, c'est pas un horizon abstrait qu'on promet avec des mots c'est une création ici et maintenant, à travers un des pôles de la vie humaine. Moi, je crois beaucoup que n'importe quel fil de la pelote humaine peut permettre de la retisser entièrement. On peut commencer par une relation singulière et rejoindre le politique. Ou bien ce sera parfois un acte de libération politique qui nous fera revivre des événements heureux, des émancipations ou des, disons, un moment de justice, l'interruption la fin d'une guerre, la paix, hein, qu'il faut appeler de ses voeux. La paix va nous faire revivre tout autant que la guérison d'une maladie ou la rencontre amoureuse. Le propre de l'être humain, c'est d'être complet évidemment. Nous avons besoin à la fois de la paix et de l'amour, de la justice et de la santé. Mais en même temps, sa force aussi, c'est que l'un de ces fils peut nous faire revivre entièrement, même si nous avons en réalité besoin de toute la pelote. Mais il faut donc commencer par le fil qu'on peut. Si malheureusement la guerre semble l'emporter, on y résistera aussi par l'amour. Et si la haine semble l'emporter, on y résistera aussi par la paix et par le travail concret, par le soin, par la justice. Tout se tient. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas demander le salut absolu, mais commencer par le fil qu'on tient ici et maintenant.
Merci Frédéric Worms pour ces deux semaines de compagnonnage philosophique et talmudique. Je suis sûr que les auditeurs et les étudiants de cette classe de BTS MUC du lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville qui vous ont lu, qui vous ont étudié, qui vous ont posé les questions et tout cela avec une véritable ferveur sont très émus d'avoir pu mettre une voix sur les mots qui les ont tant touchés. Et comme j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est ce qui était ce que vous avez dit à la fin de l'émission dernière, j'ai cru comprendre que vous m'autorisez donc à faire l'annonce et que vous seriez heureux de les rencontrer dans leur classe, un véritable présent. Je rappelle...
C'est moi qui leur dois cette possibilité.
Ben merci pour eux en tout cas. Je rappelle le titre du livre que nous avons évoqué aujourd'hui, en dehors de l'œuvre de Bergson, dont vous êtes aussi l'éditeur et le présentateur de son œuvre aux éditions Quadrige aux Presses universitaires de France. Votre livre « Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources » chez Champ Flammarion 2015. Merci encore.
Merci encore beaucoup à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager et les étudiants de la classe de BTS MUC du lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville, que je salue encore une fois. Je l'avais fait la dernière fois, mais je le refais cette fois-ci.
Moi aussi.
Très chaleureusement et encourage à continuer de développer leur recherche. Vous en avez parlé, c'est très important. Leur curiosité et leur sérénité, en tout cas. Encore merci à eux. À la prise de son aujourd'hui, Bruno Mourlan. À la réalisation, encore et toujours, Dany Journeau. Vous retrouverez tous les détails bibliographiques et biographiques de notre invité sur le site de France Culture à la page Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.